nous avons pu voir que la conclusion des alliances consistait avant tout en la prestation d'un serment dont les termes étaient au préalable soigneusement discutés, cette prestation ayant lieu lors d'une cérémonie complexe, régie par des rites précis, même s'il nous reste en partie inconnu ou mal connu. Donc jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à la sphère de la parole, d'une part, à celle des gestes, d'autre part. Qu'en était-il de l'écrit ? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Il est vrai que pendant très longtemps, l'étude des alliances a surtout consisté à analyser les traités qui nous sont parvenus. Vous avez déjà pu voir que désormais d'autres textes sont à prendre en considération, comme des lettres, des textes administratifs, etc. Il n'en reste pas moins que les textes des traités sont essentiels. Mais avant de s'intéresser au contenu même de ces documents, il nous faut poser la question de leur statut en tant qu'écrit. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à trois questions successives. Tout d'abord, comment les textes étaient-ils mis par écrit ? Deuxièmement, à quoi ressemblaient les traités mis par écrit ? Et enfin, à quoi servaient-ils ? Les procédures de mise par écrit des traités, pour les étudier, il faut d'abord avoir répondu à une question en quelque sorte préalable. Y a-t-il des traités mis par écrit avant la deuxième moitié du deuxième millénaire ? On peut décliner cette question de deux manières. D'abord, se demander s'il y a une mise par écrit obligatoire. En 1956, Margaret Mann Rankin, dans l'article de Irak 18 que j'ai déjà mentionné, écrivait « Dans le droit international comme dans le droit privé babylonien, un contrat, pour être valide, devait être fixé par écrit. » Une telle affirmation pose deux problèmes. Premièrement, s'agissant des traités, sommes-nous dans le domaine des contrats ? Alors la réponse est double. Oui, si on prend le terme de rixum au sérieux, on a vu la semaine dernière qu'il était souvent utilisé pour qualifier le lien entre deux rois ayant conclu une alliance. Mais la question se pose de savoir si ces alliances relèvent d'un droit international. Autrement dit, est-ce que cette notion a un sens s'agissant du Proche-Orient ancien ? On a vu que quelqu'un comme Amnon Altman avait répondu oui, puisqu'il a consacré un livre entier à cette question, dont j'ai déjà parlé. J'aurais personnellement tendance à éviter ce terme, dans la mesure où son emploi entraîne le risque aussitôt de toutes sortes d'anachronismes. Deuxième point, contrairement à ce qu'on a longtemps écrit et à quoi Margaret Mann Rankin fait allusion dans le passage que je viens de vous lire, un contrat de droit privé n'avait pas besoin d'être mis par écrit, et c'est ce que Samuel Gringas a bien montré lorsqu'il s'est intéressé, il y a déjà un certain temps, au contrat de mariage. Et il se trouve que le rapprochement entre alliance et mariage n'est pas fortuit. Le mot français le dit, mais les mots babyloniens le disent aussi. J'en avais déjà parlé dans ma communication à la rencontre de Münster. Cette ressemblance entre alliance diplomatique et mariage se voit d'abord dans la gestuelle. La conclusion du mariage, comme celle d'une alliance, pouvait se faire en nouant la frange des vêtements des deux parties. L'expression qui est employée, selon les cas en babylonien, c'est « sisiktam katsarum » ou « sisiktam rakasum », donc « nouer la frange ». Et c'est ainsi que deux envoyés du roi de Marie écrivent à Zimrilim pour signifier que le roi de Babylone est disposé à conclure une alliance, et il note « Amurabi est prêt à de bonnes relations, Damkatim, et à nouer la frange », et vous retrouvez l'expression « sisiktam katsarum ». Inversement, lorsque deux époux se séparent, puisque le divorce existait en Babylonie, on dit qu'ils coupent la frange. Cette fois, le verbe est « batakum », on dit « sisiktam batakum ». Et Ce geste signifie donc que les époux mettent fin à l'accord qui les liait. Eh bien, on retrouve aussi ce geste en contexte diplomatique. Dans une lettre d'ARM 26.2, numéro 313, « Coupe la frange donc de l'habit et fais ainsi connaître ton hostilité », autrement dit, c'est la, on dit en français, la rupture des relations diplomatiques, mais très concrètement, il y a un geste qui est ainsi accompli. Le deuxième point où mariage et alliance sont comparables concerne la formule relative aux relations communes. Dès le plus ancien traité connu, celui de Naram-Sin avec un roi élamite, on trouve comme engagement d'avoir mêmes amis et mêmes ennemis. L'ennemi de Naram-Sin est aussi mon ennemi, l'ami de Naram-Sin est aussi mon ami, doit jurer le roi élamite. Eh bien, on ne retrouve pas cette formule dans les contrats de mariage lorsqu'il s'agit des relations entre mari et femme, mais en revanche, dans certains contrats de mariage, lorsqu'un homme prend une épouse secondaire, eh bien, on précise que la deuxième épouse doit s'aligner sur la conduite de l'épouse principale, et la formule la plus fréquente est « elle, c'est-à-dire l'épouse secondaire, haïra celui qu'elle, c'est-à-dire l'épouse principale, est, et elle sera en paix avec qui elle est en paix ». C'est une formule qui ressemble tout à fait à celle qu'on voit de multiples reprises dans les traités d'alliance. Et cette similitude entre les deux montre bien le caractère profondément personnel des engagements entre rois à l'époque du bronze moyen. Et un élément sur lequel je n'avais pas insisté dans ma communication de Münster et que je tiens au contraire à souligner aujourd'hui, c'est le fait que dans le cas des mariages comme pour les alliances, il n'y a pas besoin pour que le lien existe qu'un texte soit écrit. Les contrats de mariage ne sont écrits que lorsqu'il y a des situations particulières, mais le mariage peut très bien exister s'il a été conclu devant des témoins, lors d'une fête, mais il n'y a pas besoin d'un document écrit. Néanmoins, des textes ont été mis par écrit et ont été découverts. La question donc est de savoir pourquoi ils ont été rédigés. Donc, je rappelle les premiers textes qui ont été signalés pour l'époque paléo-babylonienne. On a le serment d'alliance d'un roi inconnu avec le roi d'Eshnouna, Belakoum. Et je vous rappelle que la façon dont Jacobsen avait catalogué ce texte toujours inédit comme serment d'allégeance à Belakoum fait que beaucoup d'auteurs ne l'ont pas compté parmi les traités, en particulier les auteurs du recueil TLC auquel j'ai fait souvent allusion, alors qu'en réalité, tous les traités paléo-babyloniens sont des serments de fidélité et peuvent être ainsi considérés. Autre exemple, donc le serment d'alliance d'un roi, là encore non identifié, avec le roi d'Uruk Ilumgamil, un texte qui avait été publié par Falkenstein, qui avait cru que c'était une lettre, et Krauss, dans sa recension, avait écrit « Le recenseur a l'impression que, malgré Falkenstein, il ne s'agit peut-être pas d'une lettre, mais d'un accord entre rois, un traité ou un serment de fidélité fixé par écrit. » Et il avait ajouté en note « Théoriquement, les deux conceptions pourraient être conciliées par l'hypothèse que le traité soit cité dans une lettre ». Ça, c'était pour ne pas avoir l'air de partir bille en tête contre son collègue de Heidelberg, mais en réalité, la suite lui a donné raison, et je suis persuadé qu'il était sûr d'avoir raison. Ce qui s'est vérifié, simplement, à l'époque, dans un autre passage de cet article, Krauss avait déploré que le seul traité connu en 1965, c'était celui d'Eshnouna, et que ça faisait déjà 25 ans que Jacobsen en avait signalé l'existence. Il était toujours inédit en 1965, il l'est malheureusement toujours aussi. Mais la publication d'autres traités depuis 1965 a montré que Krauss ne s'était pas trompé. Je vous rappelle cet accord entre Sumunumrim de Shadlash et Hamidushur de Nereptum qui est tout à fait intéressant. Et depuis, vous vous rappelez que nous avons vu dans le deuxième cours la liste des 4 traités retrouvés à Mari, des 5 traités retrouvés à Tel Leilan et d'un dernier récemment publié concernant un roi d'Eshtouna. Donc, au total, pour cette époque, on a un corpus de 13 tablettes, ce qui n'est pas si mal. Alors, il nous faut maintenant essayer de voir comment ces traités ont été mis par écrit. J'avais souligné la semaine dernière qu'il s'agissait d'une nécessité liée au fait que l'alliance était conclue à distance. Le bon point de départ, me semble-t-il, c'est la lettre ARM 26.2 372. Une lettre adressée à Zimrilim. J'ai écrit à Monseigneur au sujet des directives concernant l'homme des Shnouna qu'Amourabi a donné à, et puis cassé, lorsqu'Amourabi est allé à Borsippa, des messagers de l'homme des Shnouna, donc du roi des Shnouna, l'y ont rejoint. Mais ils n'ont pas eu d'entrevue avec lui. Le lendemain, ils ont siégé devant lui. Après les avoir fait attendre une nuit, en réponse à leurs nouvelles, il leur a répondu. Il a donné des instructions à Sin, fils de Kakaroukoum, et à Marduk Mushalim, fils de... et il les a envoyés avec eux à Eshnouna. Ils ont pris dans leurs mains là ou une, là le français est délicat, bien entendu, petite tablette. Ils feront s'engager, littéralement toucher sa gorge, donc ils feront exécuter le rite du Lipit Napishtim, par le roi d'Eshnouna, par cette tablette. Un tel ira, et ici, Amourabi s'engagera, donc à nouveau fera le geste du Lipit Napishtim. Donc on voit dans un premier temps qu'il va y avoir un échange de petites tablettes. Une petite tablette rédigée à Babylone va partir avec des représentants du roi d'Eshnouna et des représentants du roi de Babylone jusqu'à Eshnouna, et on nous dit que le roi d'Eshnouna fera ce geste de se toucher la gorge par cette tablette. Il restera à savoir qu'est-ce que ça signifie. Et en retour, le roi d'Eshnouna enverra une petite tablette aussi, et Amourabi s'engagera. Et la suite du texte, « Après qu'ils se seront engagés par la petite tablette, Amourabi fera porter à l'homme d'Eshnouna une grande tablette, une tablette de traité, de Simdatum, et il fera prêter serment à l'homme d'Eshnouna. » Et vous avez ensuite le symétrique, « L'homme d'Eshnouna renverra à Amourabi la grande tablette, tablette de traité, et une petite cassure, et ils établiront ainsi une alliance, rixatum, entre eux. » À l'époque, lorsque j'avais commenté ce texte, j'avais proposé qu'il y ait donc un lien entre l'échange de petites tablettes et le rite du Lipit Napishtim, et ensuite l'échange de grandes tablettes et la prestation du serment qui permettait de conclure définitivement l'alliance. Et mon idée était que la petite tablette contenait l'essentiel des clauses, alors que dans la grande tablette, on rajoutait la duration initiale, les malédictions finales, et éventuellement, on développait les clauses. Nous verrons la question du contenu la semaine prochaine. Eh bien, cette façon de voir a été remise en cause par Jasper Eidem. Il a fait remarquer qu'il n'existait jusqu'à présent que deux petites tablettes, alors même que les références au rite du Lipit Napishtim sont nombreuses. Et donc il dit, ou bien il n'y a que quelques traités qui ont été l'occasion pour qu'une tablette soit échangée selon cette procédure, ou bien les accidents des découvertes, le hasard des fouilles, nous a été extrêmement défavorable, ou bien les tablettes ont été déjà jetées la plupart du temps dans l'Antiquité. Alors voilà les deux petites tablettes jusqu'à présent publiées provenant des archives de Marie. Vous avez le serment d'Amourabi de Babylone à Zimrilim, qui est une alliance contre les larmes, avec une photographie, et vous avez d'autre part le serment d'Atamrum d'Andarik à Zimrilim, qui est connu par une copie. Et la question qui se pose devant ces deux petites tablettes, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles font à Marie. Puisque ce qu'on vient de voir, c'est que normalement, le serment d'Amourabi, il est rédigé à Marie, et le roi de Marie envoie la petite tablette pour qu'Amourabi s'engage. Donc cette petite tablette, c'est à Babylone qu'on devrait la retrouver, pas à Marie. Même chose pour le deuxième. En ce qui concerne le premier, j'ai une suggestion. Il se trouve qu'il y a dans ce texte une phrase boiteuse, mal construite, qui a posé beaucoup de problèmes à tous ceux qui ont voulu la traduire, et donc chacun s'en est sorti avec des expédients. Et je me demande tout simplement si, à la relecture, le scribe ne s'est pas rendu compte qu'il s'était, si vous me pardonnez l'expression, pris les pieds dans le tapis, et donc on a mis de côté ce texte comme étant un brouillon raté, on en a écrit une deuxième, cette fois correctement, et c'est la deuxième qui est partie. Autrement dit, et pour ce qui est du serment d'Atamroum, la tablette n'est pas complète, donc on ne peut pas juger. Peut-être qu'il y a eu une erreur dans la partie qui a disparu, ou bien il y a eu une formulation qui finalement n'a pas plu à Zimrilim, et il a demandé à son secrétaire de rédiger une autre version, et celle-ci donc serait arrangée dans la catégorie des brouillons de textes qui n'ont pas été envoyés. Et donc ceci permettrait d'expliquer pourquoi, à Marie, on en a finalement assez peu. Évidemment, ça n'explique pas pourquoi on n'a pas de petites tablettes que Zimrilim aurait reçues lui-même. Mais là, encore une fois, il faut bien dire que nos archives ne sont jamais complètes. Jesper Heidem poursuit et il oriente la discussion dans une direction original. Il rappelle donc que les textes de Leylan montrent que dans une procédure de conclusion de traité, il peut y avoir envoi du sang d'un roi à un autre. C'est le texte Pyrrhon 117-185 que nous avons vu la semaine dernière. Et il ajoute « Le sang, qu'il s'agisse de celui d'un animal sacrifié ou d'êtres humains, n'aurait probablement pas été transporté sous forme liquide, mais mélangé avec quelques substances solides. » Alors déjà, c'est quelque chose qui ne me paraît pas forcément évident, mais on lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Et donc, il se rattache à ce moment-là au texte que j'ai déjà cité, où on voit Hammurabi demander qu'il y ait de la farine qui soit disposée, et il dit, eh bien, le candidat pour cette substance solide, ça pourrait être la farine qu'un envoyé de Marie doit placer devant Hammurabi, et il dit que cette sorte de pâte, n'est-ce pas, pourrait avoir été enveloppée dans quelque chose pour le transport, et que cette enveloppe, eh bien, pourrait être en argile et comporter l'inscription d'une version courte du traité. Et pour lui, c'est ça, la petite tablette. Et il dit, c'est pour ça qu'on nous explique qu'on fait le rite du Lipit Napishtim par la petite tablette. Il faut comprendre non pas en fonction des termes de la petite tablette, mais pour lui, concrètement, on cassait la petite tablette et on prenait le sang qui était à l'intérieur et on se frottait la gorge avec. Alors, il reconnaît lui-même que c'est une théorie assez hasardeuse. Mais il ajoute, c'est pour ça, c'est parce qu'on les cassait qu'on ne les retrouve pas. Et en plus, il dit, on en a peut-être retrouvé à Tel Eilan, et là, il y a quelque chose qui est absolument terrible, c'est que ce sont des fragments qu'il a regroupés sous le numéro LT7 et pour lesquels nous n'avons aucune documentation graphique. On a des descriptions, c'est tout, pas de copie, pas de photo. Donc on est quand même très, très embêtés. Il parle de surface d'argile particulièrement épaisse qui semble provenir d'une tablette creuse ou de bulles, d'étiquettes. Hein. Mais voilà, c'est quand même tout à fait regrettable. Et j'avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu, et même loin de là. Par ailleurs, et quoi qu'il en soit de cette question, le fait d'envoyer par écrit à un autre roi le texte du serment à prononcer posait un problème de fiabilité. À une époque où on n'a pas de téléphone, comment être sûr que c'était bien mot à mot le texte proposé qui serait prononcé ? C'est là que les envoyés du premier roi jouaient leur rôle. Et ici, je voudrais vous citer une lettre encore inédite de Samiya, qui a, pendant quelques années, occupé le trône de Shubat Enlil, lettre qu'il a envoyé à mon père, et le contexte montre qu'il s'agit du roi des Chnounas, Ibal Piel II. Nous avons écouté le message que notre Seigneur a fait porter ici au sujet des nouvelles de la ville et de la tablette de serment par les dieux que notre Seigneur a fait porter ici. Moi-même et mes frères, nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur. Depuis que nous avons prêté le serment par les dieux, selon la teneur de la tablette que notre Seigneur a fait porter ici, nous sommes à nouveau entrés dans, et là il y a une lacune malheureusement, et nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur devant Shamash du ciel. Et à présent, Waratishpak et son accompagnateur, serviteurs de notre Seigneur, qui se sont tenus dans le serment par les dieux, viennent d'entendre le serment par les dieux tel que nous l'avons prêté à notre Seigneur, qu'ils retournent chez notre Seigneur et Père. Alors, premier point, cette lettre nous donne la solution d'un problème que j'avais évoqué la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir dans le sang ? Je vous avais dit que mon sentiment, c'était qu'on est témoin dans ce texte-là, c'est bien clair. Les Waratishpak, dont le nom montre qu'il est un serviteur du roi des Chnounas et son accompagnateur, hein, on dit bien serviteur de notre Seigneur, donc ce sont des Échnouniens, ils se sont tenus dans le serment par les dieux. Eh bien, ça veut dire qu'ils ont assisté à la prestation du serment, et donc ils ont entendu ce qui a été prononcé, et ils peuvent retourner en disant « c'est bien mot pour mot le serment que tu leur as fait porter par tablette qu'ils ont prononcé ». Donc il y a une adéquation qui est contrôlée de cette manière-là. Et alors, ce que je peux vous indiquer en plus, c'est que dans les textes inédits de Marie, on a un fragment, pas très grand, d'une tablette à quatre colonnes, qui est un traité, encore inédit, donc, qui est un traité d'alliance avec Ibal Piel, fils de Dadusha, roi des Chnounas. Et je pense personnellement que ce fragment, c'est la tablette à laquelle cette lettre fait allusion. Et j'ai une raison supplémentaire de le penser, c'est que toutes ces tablettes ont été trouvées dans la salle 108 et elles ont des numéros d'inventaire qui se suivent quasiment. Donc, manifestement, elles ont été retrouvées côte à côte. Alors, malheureusement, la tablette à laquelle je fais allusion est trop mutilée pour que le début et la fin soient conservés. On n'a que des lambeaux de clauses, mais son format même, à quatre colonnes, suffit à dire qu'il s'agit d'une grande tablette. Et donc, c'est bien une grande tablette par laquelle Samia s'est engagée et a prêté le serment. Donc, la grande tablette est liée à la prestation du serment. Malheureusement, toute cette masse d'informations dont nous disposons sur la manière dont les traités étaient rédigés à l'époque paléo-babylonienne, eh bien, on a infiniment moins d'informations à partir de 1500. En revanche, les textes sont plus nombreux et donc on va essayer de voir qu'est-ce que les textes eux-mêmes peuvent nous dire sur la façon dont ils étaient rédigés. Il faut donc entreprendre une étude diplomatique de ces documents. Et là, il y a l'ambiguïté habituelle quand on parle de diplomatique. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie, c'est l'étude des diplômes, une discipline qui a été inventée par le bénédictin Dom Mabillon avec son ouvrage « D'Ere Diplomatica » de 1681, et essentiellement au départ pour étudier des textes de l'époque médiévale, mais les techniques qu'il a développées et qui ont été ensuite, bien entendu, perfectionnées par des générations et des générations de médiévistes, eh bien, ces techniques peuvent s'exporter. Il y a eu un numéro de la bibliothèque de l'école des chartes, il y a maintenant une douzaine d'années, qui a été consacré aux exportations de la diplomatique, donc avec des études sur le monde romain, sur le Japon médiéval et sur le monde mésopotamien également. Un point de départ fondamental pour ces études des documents, c'est de bien distinguer ce qui relève des caractéristiques externes et des caractéristiques internes. On va commencer par l'étude des caractères externes. Les spécialistes aiment bien parler de caractères extrinsèques, ça revient au même. Première question, la nature des supports. Eh bien, s'agissant des traités, on a une gamme inhabituellement large par rapport à ce que le monde cunéiforme est habitué à connaître. Bien entendu, on a l'argile. Ici, l'exemple du traité retrouvé à Marie et par lequel Zimrilim devait s'engager à l'égard du roi des Chnounas. Et s'agissant d'argile, je regrette évidemment que, aujourd'hui où les techniques d'analyse de l'argile se sont développées tout récemment, eh bien, je regrette qu'on ne puisse pas momentanément faire d'études de l'argile de cette tablette, car normalement, on devrait pouvoir montrer que cette argile, elle vient de la région d'Eshmouna et pas de la région de Mari. En dehors de l'argile, on a, de manière exceptionnelle, le métal. Par exemple, le bronze, ce traité, non pas de Supiluliuma, pardon, de Tutralia IV, avec Kurunta de Tarundasha. On peut avoir aussi l'argent. Alors là, il s'agit du traité entre Hattusili III et Ramsès II. Je citerai le texte tout à l'heure. On n'a pas retrouvé la tablette d'argent, mais les textes font allusion à leur exercice. Et puis, il peut y avoir aussi la pierre, par exemple, ce traité néo-assyrien entre le roi babylonien Marduk Zakirshumi et le roi assyrien Shamshi Adad V. Cette évolution qui fait qu'on n'a pas de traité sur support noble avant le milieu du deuxième millénaire était pour moi le signe que les tablettes ont acquis un statut particulier seulement à partir du milieu du deuxième millénaire. On aurait eu des tablettes instruments de communication dans un premier temps, qui n'avaient pas d'autre but que de permettre un contrôle du mot à mot du serment prêté, l'important restant alors l'oral, et plus tard, le traité aurait été conservé et éventuellement recopié sur des supports plus nobles que l'argile, parce que le texte aurait acquis une valeur en soi. Belle vision évolutionniste dont j'étais très content jusqu'au moment où nos collègues spécialistes des Blas ont publié quelques textes qui, malheureusement, mettent à mal une telle façon de voir. Il semblerait qu'il y ait eu des tablettes de traité au moins décorées avec des métaux précieux à Ebla. Vanabiga, dans un article de Orientalia 77, dit que un texte de métaux enregistre l'argent qui a servi pour décorer la tablette du serment entre le roi et Ibizikir, qui a été prononcé dans le pays de Kour, et elle ajoute « Si l'interprétation de ce bref passage est correcte, il faut alors estimer que l'usage d'écrire des tablettes de traité sur des matières précieuses, comme le bronze, l'argent et l'or, serait documenté aussi à Ebla. » Et le passage auquel elle fait allusion a été publié dans JCS 55 et on voit donc qu'il est question de cinq cycles d'argent pour la feuille d'une tablette de serment du roi et de Ibizikir, qui est son premier ministre, donc à Kour. Ceci, évidemment, est quelque chose de très intéressant. S'il n'y avait qu'un texte, on pourrait se dire, ma foi, est-ce qu'on le comprend bien ? Mais le problème, c'est qu'il y en a un deuxième. Et ce deuxième texte nous dit ceci. 5 mines d'argent, cadeau pour Aha Arché, 3 mines d'argent, cadeau pour Acha, 2 mines d'argent, cadeau pour Il-A, 1 mine d'argent, cadeau pour les hommes qui sont leurs représentants et qui sont des hommes de Marie, à l'occasion de l'offrande d'huile de Marie, et nous savons que c'est à Ebla la façon de désigner les traités, ensuite 10 cycles d'argent pour Doutoum de Marie, et pour finir, 50 cycles, c'est-à-dire 400 grammes d'argent, une feuille pour... Alors là, on est obligé d'en rajouter quelque chose dans la traduction, pour recouvrir une tablette, à savoir celle du serment d'Ebla et Marie pour le temple du dieu Koura. Quel est l'intérêt de recouvrir une tablette avec une feuille d'argent, puisqu'on ne la verra plus ? Alors, le texte, malheureusement, ne nous décrit pas le dispositif, et nos collègues épigraphistes d'Ebla n'ont pas curieusement approfondi la question. Mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être, dans le second cas où on a quand même 400 grammes, ce qui est beaucoup, d'un dispositif un peu analogue au fameux lion d'Urkish. Alors, en l'occurrence ici, il s'agit d'un document de fondation et non pas d'un traité, mais on voit bien comment une tablette peut être insérée dans un objet en métal. Dans le cas d'Ebla, il n'y a pas besoin de supposer qu'il y avait un lion, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Et ensuite, on voit que c'est déposé dans un temple, et donc c'est le dispositif qui permet, qui sert d'écrin, en quelque sorte, à la tablette. Si c'est vrai, eh bien, ça montre que j'ai eu tort de reconstituer cette évolution linéaire de la mise par écrit des traités et que, dès le IIIe millénaire, il y aurait eu mise par écrit et solennisation du traité conservé dans un temple. Alors, évidemment, j'ai un petit coin de ma tête qui ne peut pas s'empêcher de penser qu'Alfonso Archi, étant hittitologue, a peut-être été influencé dans son interprétation des textes par les réalités de la deuxième moitié du deuxième millénaire, mais j'ai eu beau me creuser la tête, je ne vois pas comment interpréter les deux passages que je vous ai cités autrement que Alfonso Archi et Vanabiga l'ont fait, donc je vous livre le dossier dans l'état actuel de mes réflexions. Voilà pour les supports. Deuxième point à regarder lorsqu'on examine les caractères externes des documents, les marques de validation, autrement dit, les scellements. On n'en a aucun pour l'époque paléo-babylonienne, malgré ce qui a été indiqué dans des publications préliminaires relatives au texte de Leylan. Il y a néanmoins un texte de Marie qui a posé problème. Il a été résumé par Altman dans son livre de la manière suivante. L'expéditeur de cette lettre demande à Zimrilim, le roi de Marie, de lui envoyer un sceau qui doit être imprimé sur une tablette de serment par la vie du dieu, c'est-à-dire un traité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Eh bien, le texte est le suivant. Ilisumu, qui était candidat au trône d'Ashnakum, ne possède pas de sceau. Voilà que le nom de son père se trouve sur la tablette du serment par les dieux. Il faut que mon père lui fasse porter un sceau. L'éditeur du texte, Jean-Robert Cuper, avait traduit « Voilà que le nom de son père va figurer sur la tablette du serment par les dieux ». Et quand j'avais relu le manuscrit, j'avais fait observer à M. Cuper que si sa traduction était juste, ça voulait dire que on avait une tablette de traité qui était scellée, et je lui dis, c'est très étonnant, parce que tout ce qu'on a jusqu'à présent est sans sceau. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de traduire autrement? Et tout à coup, je me suis rendu compte que le texte acadien a comme verbe simplement « ibashi », qui a été traduit par un futur par Cuper, mais qu'on peut traduire très bien par un présent. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut complètement déconnecter les deux affaires. On sait en effet que la légende d'un sceau comporte en général le nom du propriétaire suivi par le nom de son père. Et donc l'auteur de la lettre suggère simplement à Zimrilim qu'il n'aura pas de problème pour faire inscrire le sceau puisqu'il a à sa disposition une tablette de serment par les dieux, donc une tablette de traité, dans laquelle figure le nom du père de Ilisumu. Et de fait, les tablettes de ce genre indiquent toujours le nom du roi qui s'engage et celui de son père et son titre. Donc, il me semble qu'il y a d'une part le fait que c'est Zimrilim qui va envoyer à Ilisumu un sceau, et ça nous savons que c'est une marque de reconnaissance pour laquelle on a d'autres exemples, et donc ce sera marqué Ilisumu, fils de un tel, et puis éventuellement il y aura serviteur de Zimrilim, peut-être, sur la troisième ligne, et que la mention de la tablette de traité, c'est simplement le référentiel qui permettra de savoir quel est le nom du père de Ilisumu. Pour résoudre le problème posé par cette tablette, Jasper Haydem a proposé une autre solution, et pour lui, c'est la fin de l'extrait que je cite, de Piran 117, « Il semble possible que les tablettes de traité échangées entre les rois aient été placées dans des enveloppes scellées. » Donc pour lui, le texte ne prouverait pas que les traités eux-mêmes étaient scellés, mais qu'ils aient voyagé sous enveloppes scellées. « Il me semble que c'est confondre deux pratiques. Dans la correspondance, l'expéditeur scelle l'enveloppe, ce qui garantit la confidentialité du contenu de la lettre et en même temps assure l'identité de l'expéditeur, puisque c'est son propre sceau qui va être imprimé sur l'enveloppe. D'autre part, on a les contrats dans lesquels scelle avant tout celui qui renonce à un droit. Par exemple, si vous avez un contrat de vente, c'est le vendeur qui va sceller, ou encore celui qui s'engage, par exemple le débiteur qui s'engage à rembourser. Et dans ce cas, on trouve le sceau sur la tablette, et souvent, sur l'enveloppe, il y a davantage de sceaux parce qu'il peut y avoir aussi ceux des témoins. Mais les tablettes de traité ne sont pas des contrats au même titre qu'une vente ou un prêt. On y trouve le texte d'un engagement de nature politique et personnelle qui doit être pris par un roi, et donc il est tout à fait normal que ce dernier n'ait pas imprimé son sceau. Donc, il me semble que la conclusion, c'est ni tablette scellée, ni enveloppe scellée à l'époque paléo-babylonienne, et là, les choses changent radicalement au milieu du deuxième millénaire. On voit en effet que les tablettes de traité sont scellées. Dans l'épopée de Tukulti-Ninurta, eh bien, le roi fait allusion au traité qui le liait avec le roi babylonien, et ce traité est décrit comme une tablette de notre serment réciproque, et il est question également de l'empreinte du sceau de mes pères, et on nous dit que cette tablette ne doit pas être altérée. Donc, le scellement est en quelque sorte la garantie de l'inviolabilité de la tablette. Deuxième exemple, en ce qui concerne le traité entre le roi Hittite Hattusili III et le pharaon Ramsès II, eh bien, nous savons que l'exemplaire reçu par le pharaon portait des sceaux hittites. Et là, c'est assez extraordinaire parce que nous en avons une description grâce à la traduction égyptienne que nous possédons de ce traité. Et donc, on nous dit que sur la face, il y a le sceau de Hattusili, et sur le revers de la tablette, il y a le sceau de son épouse Pudurhepa. Mais comme par ailleurs, on nous dit que cette tablette est en argent, la question c'est comment est-ce qu'on peut sceller une tablette en métal ? Eh bien, la réponse nous a été donnée par la tablette de bronze retrouvée à Hattusha, que je vous ai déjà montrée, et on voit qu'il y a deux trous où passent des chaînes qui servaient manifestement à suspendre la tablette de bronze, mais on voit bien qu'à cet endroit-là aussi, on peut faire passer une cordelette, et cette cordelette pourra être scellée, un peu donc comme les scellements en cire appendus au parchemin médiévaux. Mais le texte montre que les sceaux qui ont été à l'origine placés sur ce traité n'étaient pas ceux du roi et de la reine. Le texte précise, cette tablette est faite en 7 exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d'Arina et le sceau du dieu de l'orage du Hatti. Donc les deux divinités principales de la royauté hittite, eh bien, ce sont les sceaux des divinités qui garantissent en quelque sorte le texte. Et ceci est quelque chose de tout à fait nouveau dans le développement chronologique que j'essaye de reconstituer, et nous allons voir que ça continue encore au premier millénaire avec les vassal treaties, les AD du roi Assaradon. Vous vous rappelez, j'ai déjà présenté ce texte, qu'il s'agit de l'accord que Assaradon a conclu avec toute une série de vassaux et d'autres personnes en 672 pour assurer sa succession, le trône d'Assyrie devant aller à Assurbanipal et celui de Babylonie à Shamash-shumukin. Et bien sur la face de la tablette, on trouve trois déroulements de sceaux avec une mention par-dessus qui indique sceau du dieu Ashur, roi des dieux, seigneur des pays, qui ne peut être changé, sceau du grand prince, père des dieux, qui ne peut être contesté. Autrement dit, la légende ne parle que d'un sceau, et ce sceau est présenté comme celui du dieu national des Assyriens, le dieu Ashur. Eh bien, il semble bien que les trois sceaux différents soient tous les trois des sceaux du dieu Ashur, comme l'a bien montré Kazuko Watanabe à la suite de Ruth Opificius. Le premier sceau qui est au milieu, on sait que c'est le premier qui a été déroulé grâce à un examen attentif de la surface de la tablette qui montre les recouvrements. Et c'est un sceau qui, stylistiquement, est clairement d'époque paléo-assyrienne, donc du début du deuxième millénaire, et il a une légende. On nous dit que ce sceau appartient au dieu Ashur et qu'il est de l'hôtel de ville, Bit Alim. L'iconographie est extrêmement intéressante. On voit un orang qui est suivi par une déesse d'intercession, la fameuse Lamassatoum, et d'habitude, si on s'en tient aux comparaisons possibles, on devrait avoir à droite une divinité assise sur son trône, et là, il n'y a rien. On a la volonté manifeste de ne pas représenter le dieu Ashur à cette haute époque. C'est un élément inversé au dossier de l'aniconisme, sur lequel je ne voudrais pas m'étendre davantage aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un sceau officiel qui a dû être utilisé au XIXe siècle, même si on n'en possède jusqu'à présent pas d'empreinte pour cette époque. Autrement dit, ce sceau a été conservé de génération en génération, puisqu'il était encore disponible 12 siècles après sa fabrication. Il n'y a aucun élément qui permette de dire qu'on a affaire à une copie et non pas à un original. On ignore ensuite dans quel ordre ont été déroulés les sceaux à droite et à gauche. On va commencer par regarder le sceau qui se trouve à gauche. Il s'agit de ce qui est parfois présenté à tort comme le sceau de Sennachérib, qui était le roi d'Assyrie, père d'Assaradon. Cette idée est venue de l'examen de l'iconographie. On voit en effet un roi qui est représenté debout, faisant le geste de la prière, devant une divinité à gauche qui est coiffée d'une tiare à cornes, debout sur deux animaux et tenant dans sa main gauche les symboles du pouvoir, c'est-à-dire le bâton et l'anneau. Derrière le roi, la divinité est très facilement reconnaissable puisque c'est une déesse et qu'elle est debout sur un lion, donc il s'agit d'Ishtar. Et donc, par comparaison avec d'autres bas-reliefs néo-assyriens, la figure de gauche doit être identifiée au dieu Ashur. Et comme la légende mentionne le nom de Sennachérib, eh bien, on a dit un peu rapidement qu'il s'agissait du sceau de Sennachérib. En réalité, Andrew George a attiré l'attention sur le texte de 16 lignes qui doit être pris en compte en entier et qui dit ceci : sceau des destins, par lequel Ashur, le roi des dieux, scelle les destins des dieux Igigi et Anunnaki, des cieux et de la terre, ainsi que de l'humanité. Donc le roi des dieux décide du destin des autres divinités et des hommes. Rien de ce qui est scellé par lui ne doit être modifié. Celui qui ferait une modification, qu'Ashur, roi des dieux, et Moulissou le fasse mourir, ainsi que ses enfants, avec leurs armes puissantes. Moi, Sennachérib, roi d'Assyrie, je suis le prince qui te révère. Celui qui effacerait mon nom inscrit ou altérerait ton présent sceau des destins, eh bien, efface son nom et sa descendance dans le pays. On voit bien que la prière à la fin est adressée au dieu Ashur et que le sceau est présenté comme ton sceau. Donc c'est bien le sceau du dieu Ashur et pas le sceau de Sennachérib. La fonction de ce sceau, c'est de garantir l'inaltérabilité des documents qui seront revêtus d'une empreinte de ce sceau. Si on en vient maintenant au sceau de droite, eh bien, malheureusement, la légende de 15 lignes est très mal lisible et ce qu'on peut dire, c'est que l'iconographie est d'un style incontestablement médio-assyrien. On a une divinité à gauche qui est à peu près sûrement Ashur. À droite, cette fois, on n'a pas Ishtar, mais le dieu de l'orage, vous voyez le foudre qu'il tient en main, et il est debout sur un taureau ailé. Et puis au milieu, on a une figure divine qui introduit devant le dieu Ashur un personnage à genoux et en prière. Et la parenté de cette figure avec un autel découvert dans le temple d'Ashur qui représente le roi Tukulti-Ninurta qui a régné de 1245 à 1208 avait conduit Wiseman à estimer que le sceau était celui du roi Tukulti-Ninurta. Mais maintenant qu'on a compris que le sceau de gauche n'est pas celui de Sennachérib, mais celui du dieu Ashur, eh bien, on peut penser qu'il en va de même pour ce sceau médio-assyrien. Et donc, c'est ce que Ruth Opificius et Kazuko Watanabe ont proposé. Et j'avoue que je suis étonné de constater qu'à ma connaissance, aucun spécialiste de médio-assyrien n'a collationné les empreintes du sceau pour tenter d'en améliorer la lecture. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être possible. Quoi qu'il en soit, ce qui est remarquable, c'est d'abord la façon dont l'histoire assyrienne est en quelque sorte convoquée sur ce document depuis le XIXe siècle, en passant par le XIIIe, et il faut par ailleurs souligner le fait que la tablette est placée sous la protection du roi des dieux Ashur. Et vous comprendrez, une fois de plus, le sous-titre que j'ai donné au cours de cette année « Entre droit et religion ». Nous sommes vraiment au cœur du sujet, et ça va continuer avec la question suivante, qui est celle de savoir où ces tablettes étaient déposées. Il faut distinguer entre les tablettes solennelles, telles que celles que nous venons de voir, et les tablettes préparatoires. Dans le deuxième cas, les tablettes ont été retrouvées dans les archives des palais, à Eshnouna, à Uruk, à Mari, à Shubat Enlil. Et puis, il y avait ces tablettes solennelles. On a vu que pour Ebla, le texte administratif que j'ai cité tout à l'heure mentionne le fait que la tablette sera déposée dans le temple de Koura, qui est la divinité politique la plus importante à Ebla. Mais on doit ajouter que la tablette d'argile du traité avec Abarsal a été retrouvée dans la salle d'archives du palais. En ce qui concerne les traités de la deuxième moitié du deuxième millénaire, les copies ont pour l'essentiel été retrouvées dans les archives palatiales, à Boaskeuil, Hattusha, et le seul original qu'on ait du côté hittite, c'est la tablette en bronze, mais on a des textes qui nous disent où les copies du traité devait être conservé. Un des cas les plus intéressants, c'est ce fameux traité de Toutralia IV avec Kurunta, connu par la fameuse tablette de bronze. Et à la fin, donc on a déjà lu le début du passage, hein, cette tablette est faite en 7 exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire Darina et le sceau du dieu de l'orage du Hati, mais ça continue ainsi. Une tablette est déposée en présence de la déesse solaire Darina, une tablette en présence du dieu de l'orage du Hati, une tablette en présence de l'Elwani, une tablette en présence de Hebat du Kizuwatna, tout ça ce sont des grandes divinités, une tablette en présence du dieu de l'orage aux foudres, et une tablette dans le palais, littéralement la maison du roi, en présence du dieu Zitraria. Et Kurunta, roi du pays de Tahuntasa, garde une tablette dans sa résidence. Autrement dit, on a sur les 7 copies, 5 tablettes qui vont être placées dans les temples de divinités hittites extrêmement importantes, une dans le palais du roi hittite et une dans le palais du roi de Tahuntasa. Quelque chose de tout à fait remarquable. Si maintenant on regarde la situation à l'époque néo-assyrienne, eh bien on a retrouvé 9 exemplaires des traités de fidélité à Saradon à proximité du temple de Nabu à Nimroud, qui était cassé en des centaines de fragments. Et donc on pense qu'à l'origine, ces tablettes se trouvaient dans le temple de Nabu. Malheureusement, à ma connaissance, aucune photo de la découverte in situ n'a été publiée. Mais, tout récemment, en Turquie, à Tel Tainat, on a découvert un temple, et sur le sol de ce temple, on a découvert une grande tablette qui est exactement semblable à celle de Nimroud, y compris les empreintes de sceau, pour autant qu'elles sont conservées. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a pu voir dans l'épaisseur de cette tablette 2 trous qui manifestement étaient destinés à faire passer une cordelette pour suspendre la tablette, vraisemblablement au mur du temple. C'est extrêmement important parce que nous avons maintenant la preuve que les tablettes de ce genre étaient bel et bien visibles. Et donc, à partir du milieu du deuxième millénaire, apparaît un double souci de préservation des tablettes, d'une part, de publicité de leur contenu. On y reviendra tout à l'heure. Alors, il faudrait maintenant, en bonne méthode, que je passe au caractère interne des textes, mais ceci nous conduirait trop loin, et donc je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, lorsque nous commencerons à étudier le contenu même des traités. Et j'en viens au dernier aspect que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire la vie postérieure de ces textes. Il y a d'abord donc l'obligation de publicité. Elle est exprimée de manière spectaculaire dans une lettre du pharaon Ramsès II à Ratoussili III. « Maintenant, j'ai rempli toutes les exigences que mon frère m'a écrites. Je vais faire une tablette d'argent, la fameuse tablette d'argent que j'ai déjà mentionnée, la voilà, et je vais la faire porter à mon frère, et mon frère devra montrer aux gens du pays Hatti tous les mots qui se trouvent dessus, et tu devras la placer devant les dieux du pays Hatti. » Et donc, on voit bien que le fait de mettre la tablette dans les temples, c'est pas, il y a la question de la préservation, de la mettre à l'abri, mais on voit bien qu'il y a aussi l'obligation de publicité. Et le pharaon lui-même l'a fait d'une manière extraordinaire. Ceux parmi vous qui sont allés à Karnak ne se sont peut-être pas rendus compte, devant ce mur, qu'ils avaient sous les yeux la copie en égyptien de ce fameux traité entre Hattusili III et Ramsès II. On peut difficilement faire une publicité plus grande à un texte de ce genre que de le recopier sur le mur extérieur d'un temple. Deuxième point, la question de la consultation de ces textes. On a deux cas de figure. D'abord, on a certains textes de traité qui comportent une clause relative à l'obligation d'en relire régulièrement le contenu. Par exemple, le traité du roi hittite Supiluliuma avec Chatiwaza du Mitanni. Une copie de cette tablette est déposée, j'avais mis duplicat, alors il manque un E à déposer, excusez-moi, devant la déesse solaire d'Arinna, étant donné que la déesse solaire d'Arinna dirige le statut de roi et de reine. Donc c'est une des grandes divinités politiques du monde hittite. Également dans le pays du Mitanni, une copie est déposée devant le dieu de l'orage, seigneur du Kurinu de Karat. Régulièrement, devant le roi du pays du Mitanni et devant le peuple du pays Ourite, que ce texte soit lu. Donc on a dans le même paragraphe l'indication que des copies sont déposées dans le principal temple de chacun des contractants et le fait qu'il y aura une relecture publique régulière chez le vassal. Autre exemple, un traité du roi hittite Muwatalli II avec Alaksandu de Wilusa. Maintenant, Alaksandu, cette tablette que j'ai préparée pour toi devra être lue chaque année, trois fois par an, et ainsi, Alaksandu, tu la connaîtras bien. Donc on voit que le but de la relecture, c'est de faire entrer régulièrement, de remémorer au vassal eh bien, les engagements qu'il a pris à l'égard du roi hittite. Mais on a également des exemples de consultations a posteriori qui sont faits dans un but politique dans le contexte de négociations. Et là, on a une lettre absolument extraordinaire qui a été publiée par Michael Guichard dans la revue d'Assyriologie il y a quelques années. On nous dit ceci. Autre chose. Hammurabi a pris connaissance de la malédiction de la tablette du serment par le dieu et il m'a écrit ainsi. La malédiction de cette tablette est très forte. Ça n'est pas à méditer en soi-même. Ce n'est pas non plus à faire entendre oralement. Certes, il y a des tablettes de serment par le dieu, depuis le temps de Soumouléel et Sinmoubalit, mon père. Et depuis que moi, je suis monté sur le trône de la maison paternelle, j'ai prêté un serment par le dieu à Samsi-Hadou et à de nombreux rois. Ces tablettes existent, mais elles ne sont pas fortes comme cette tablette de serment par le dieu. Voilà que je viens d'envoyer chez ton seigneur mes dieux et mes serviteurs pour lui faire prêter serment par le dieu. Dès qu'il aura juré le serment par mes dieux, qu'il retourne une réponse à ma tablette, pour que je prête le serment par le dieu. Et l'envoyé de Zimrili m'ajoute, à présent qu'une réponse à sa tablette arrive rapidement chez moi, pour que je lui fasse prêter le serment par le dieu en fonction de ce que mon seigneur m'écrira. Alors je reviendrai sur l'affaire de la malédiction qui est passionnante lorsque nous parlerons de cela, mais ça n'est pas aujourd'hui le point qui retiendra notre attention. Ce que je veux souligner, c'est le fait qu'Hammurabi avait à sa disposition à Babylone le texte des alliances conclu par ses prédécesseurs depuis le fondateur de la première dynastie, Soumoulael, jusqu'à son père Sinmoubalit, et il gardait lui-même le texte de traité qu'il avait conclu avec Samsi-Hadou et les autres rois, et là, évidemment, de nombreux autres rois. On aimerait bien voir la liste, mais comme toujours, les textes sont elliptiques. Et ce qu'on peut dire, évidemment, c'est qu'il est bien dommage que rien de tout cela n'ait été retrouvé, puisque, vous le savez, les fouilles de Babylone n'ont pas atteint le niveau où se trouvait ce palais. Et la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir quel était le statut de ces tablettes. Et pour ma part, je trouve le commentaire de Sophie Desmarlafons à ce sujet très pertinent, je la cite. « L'écrit à lui seul n'augmente pas la fiabilité et la force d'une convention dans une société où la parole donnée sous le regard des dieux suffit à créer un engagement solennel. » Toujours à propos de ce texte, il est plus juste de dire que l'écrit sert de repère, d'indicateur dans des conventions futures. Il n'a ainsi pas de valeur absolue, mais relative. Les traités sont des contrats solennels, créés par un formalisme contraignant, sans besoin de l'écrit. C'est vrai pour cette époque-là, mais on voit qu'à partir du milieu du deuxième millénaire, les choses ont changé, puisque les textes sont solennisés, scellés par les dieux, et ça change considérablement les affaires. Un dernier exemple, c'est l'épopée de Tukulti-Ninurta, dans laquelle on raconte comment le roi assyrien a pris la tablette de serment, donc le traité, qui le liait au roi babylonien, et l'a lu devant Shamash. Et c'est ensuite seulement que le roi assyrien écrivit à son homologue babylonien une lettre énumérant tous les manquements de celui-ci par rapport aux clauses qu'il engageait, justifiant ainsi sa convocation à la bataille. Alors on peut dire, une œuvre comme l'épopée de Tukulti-Ninurta, c'est une œuvre polémique, certes, mais il faut quand même que l'argumentation soit acceptable par l'auditoire. Et donc, ça ne peut que faire allusion à des pratiques réelles de l'époque. Et donc, on en retiendra l'idée qu'une tablette de traité était facilement accessible et consultée en cas de besoin. Et puis le dernier point, c'est l'examen des manipulations du texte écrit. Il peut y avoir d'abord une annulation. Les Hittites, au moment de conclure un traité avec le roi du Kizuwatna, se heurtent à un obstacle, c'est le fait que le roi du Kizuwatna était déjà lié au roi du Mitanni. Qu'à cela ne tienne, disent les Hittites, nous effacerons la tablette de serment qui a été faite antérieurement, nous mettrons de côté la parole du roi de Hurri, c'est-à-dire le roi mitannien, et nous ferons une nouvelle tablette. Donc là, on ne tient pas compte d'un engagement antérieur. On peut voir, à l'inverse, que le texte en lui-même des traités gagnait une valeur telle que si la tablette venait à être perdue, elle devait être reconstituée. Par exemple, le traité entre Mursili et Talmisharuma d'Alep disparu, Mouwatali procéda à l'exécution d'une copie qu'il scella avec son propre sceau. Et il écrivit ceci, « Mon père Mursili fit une tablette de traité pour Talmisharuma, le roi d'Alep, mais la tablette a été volée. Moi, le grand roi, j'ai écrit pour lui une autre tablette, je l'ai scellée de mon sceau et la lui ai donnée. » Donc là, on est dans le cas où les tablettes sont scellées par les rois, et il s'agit donc d'un nouvel exemplaire. Et Ougarit nous a livré un exemple de ce genre. C'est une proposition d'alliance qui avait été faite par le roi de Karkemish, Charikouchour, Anikmadou d'Ougarit. Mais la tablette que nous possédons porte le sceau d'Initéchoub, qui est un descendant, le petit-fils de Charikouchour. Et la tablette s'achève ainsi. « Cette tablette avait été scellée du temps du grand-père du roi, mais elle a été cassée. À présent, le roi Initéchoub en a scellé une copie. » Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit ici, en matière de droit international, avec les guillemets que je vous ai proposés au début, une conduite qui est documentée à l'époque paléo-babylonienne, mais en droit privé, à savoir la reconstitution d'un titre de propriété disparu. Et le but est le même, c'est d'éviter les contestations futures, notamment les contestations de limites territoriales, qu'il s'agisse des bornes d'un champ ou des frontières d'un pays. Dernière manipulation possible, c'est la destruction. C'est le cas donc des Vassal Treaties retrouvés en miettes à Nimroud et dans une pièce adjacente au temple de Nabou, non pas dans le temple lui-même où on se serait attendu à les trouver conservés. L'interprétation générale, c'est qu'en 612, lors de l'assaut final contre l'Empire néo-assyrien, les Mèdes ont voulu détruire les tablettes qui conservaient le souvenir de leur engagement envers les Assyriens 60 ans plus tôt. Dans la mesure où les tablettes sont détruites, on n'est plus tenu par leur contenu. On voit donc, pour finir, que le statut de l'écrit en la matière est très variable. On peut distinguer deux types de situations pour les textes de serment d'alliance ou encore de loyauté. Premièrement, des tablettes qui servaient seulement à transmettre à celui qui jurait le texte exact de l'engagement qu'on souhaitait lui faire prendre par serment. Dans ces cas-là, on a des brouillons ou des copies qui pouvaient être conservées par l'expéditeur, comme on l'a vu pour les petites tablettes d'Amourabi ou d'Atamroum. Ces tablettes pouvaient être conservées par le destinataire également, comme on l'a vu pour l'engagement de Zimrilim envers le roi d'Eshtouna, la grande tablette que j'ai montrée tout à l'heure, et comme une lettre relative à Hammurabi nous en a donné le témoignage, puisque Hammurabi peut ensuite consulter les tablettes des serments qu'il a lui-même prêtées. Avec le temps, l'écrit a été en quelque sorte sacralisé. Les tablettes ont été pourvues de sceaux, dans un premier temps, semble-t-il, par ceux des rois qui s'engageaient. Et puis ensuite, on voit qu'on a aussi des sceaux des divinités principales, depuis l'époque hittite jusqu'à l'époque néo-assyrienne. On voit que ces textes étaient reproduits parfois sur des supports prestigieux, comme le bronze ou l'argent, ou jugés plus pérennes que l'argile, comme la pierre. Enfin, on voit ces documents être déposés dans des temples, tant chez celui qui s'engageait que chez celui envers qui il s'engageait, une relecture régulière étant parfois prescrite. Toutes ces précautions avaient pour but que les engagements pris soient inaltérables et pérennes. Eh bien, nous verrons dans les deux prochains cours le contenu même de ces engagements que l'on souhaitait si ardemment voir respectés. Je vous remercie de votre attention.